9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
La suite des réjouissances dans les GG, dans les grandes gueules, les amis. Tout à l'heure, on a un GG 7 et match à 11h20 pour ou contre le bac à compost pour tous. Alors, ça peut vous paraître gaguesque, ça ne l'est pas.
Non, non, pas du tout.
Si, si, c'est un gag.
À partir de l'année 2024, on va devoir, chaque foyer, nous allons devoir avoir notre bac à compost. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? C'est justement pour essayer de faire en sorte qu'on recycle les déchets alimentaires. Tout à l'heure, à 11h20, on a une équipe qui est pour Barbara et Bruno, une équipe qui est contre Olivier et Jérôme. De là, à vous de choisir aujourd'hui, à 11h, les jeunes moins sportifs. Aujourd'hui, les ados sont moins sportifs que les plus de 65 ans. C'est ce que démontre une étude. Est-ce que vous voulez qu'on en parle? Ou est-ce que vous préférez que l'on parle de la sécurité routière, la nouvelle campagne de prévention qui va cibler davantage les hommes? Alors, de quel sujet voulez-vous que l'on parle? C'est à vous de voter sur notre site internet et rmc.fr. Et ensuite, on s'empare de ce sujet et on en discute avec vous au 32-16. La journée de mobilisation, est-ce qu'il y aura plus ou moins de monde dans la rue? Là encore, vous venez discuter avec les grandes gueules.
RMC, les grandes gueules.
Et justement, pour voir un peu où en est la mobilisation, on va aller du côté de Guéret dans la Creuse avec Caroline Philippe, l'envoyée spéciale d'RMC. Caroline, la grande question, c'est de savoir s'il y aura plus ou moins de monde pour cette troisième journée de mobilisation.
Oui, exactement. Alors pour l'instant, le cortège n'est pas encore parti ici, donc impossible de vous dire combien de manifestants sont présents. Ils continuent d'ailleurs à affluer ici sur le parking de la gare routière à Guéret, dans une ambiance toujours joyeuse, sous le soleil, malgré le froid extrêmement piquant. La crainte de tous, c'est que la mobilisation s'essouffle, qu'il y ait moins de monde aujourd'hui dans les rues après le succès des deux premières éditions dans cette ville-préfecture de 13 000 habitants. Rendez-vous compte, il y avait 4 800 personnes à défiler mardi dernier. Alors aujourd'hui, le risque, c'est que les vacances scolaires qui ont déjà débuté ici à Guéret dans la Creuse viennent perturber la chose. On pense évidemment aux retraités qui vont peut-être être contraints de garder leurs petits-enfants, qui a été extrêmement mobilisé depuis le début de la contestation contre cette réforme des retraites. On pense aux enseignants qui sont en congé, qui sont peut-être partis en vacances, mais ça peut aussi être dans le bon sens. C'est l'incertitude aussi parce que les enseignants, par exemple, ne vont pas perdre une journée de grève. Alors ça va peut-être les inciter à venir. Peut-être qu'il y a des touristes, c'était l'espoir d'un représentant de la CGT hier, qui vont venir rejoindre le cortège. Ce qui est évident, c'est que la motivation et la détermination des forces syndicales et des manifestants qui sont en face de moi est intacte après trois jours de mobilisation et de grève. Je suis avec Monsieur Giraud de Force Ouvrière. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui ?
Ah bah personnellement, on est toujours mobilisé. On dit toujours non à cette réforme de retraite qui est injuste, brutale, voire même je le qualifie de violente, puisque le gouvernement, même s'ils veulent lâcher sur certains points, sur des miettes qui sont les carrières longues, les carrières pénibles, il est hors de question que les salariés, et les travailleuses et les travailleurs fassent deux ans de plus. C'est clair et net.
Et est-ce que vous avez la crainte de voir un petit peu moins de monde aujourd'hui dans les rues de Guéret?
Écoutez, la crainte est toujours là. Et il faut bien comprendre qu'une journée de grève, c'est une journée de salaire en moins. Ça, on va pas jeter la pierre à ceux qui peuvent pas être présents, qui ont décidé de reprendre le travail, ne serait-ce que pour une journée. Après, ce qui nous rappelons à Force Ouvrière Communication, effectivement, que le samedi, il y a une nouvelle journée de rassemblement et nous souhaitons qu'il y ait un maximum de monde.
Et c'est justement pour ça qu'ils vont aller tout à l'heure, après la manifestation, mener une opération escargot. Force Ouvrière et la CGT appellent les manifestants à poursuivre le mouvement. Opération escargot pour justement tracter et demander aux gens de venir les rejoindre samedi dans les rues de Guéret. Voilà, c'est l'enjeu, c'est l'objectif aujourd'hui. Ce n'est pas tant de réunir le plus grand nombre, c'est de maintenir la pression et de se faire voir et de donner aux gens envie de les rejoindre samedi prochain. Voilà.
Merci Caroline Philippe en direct de Guéret dans la Creuse pour RMC. On va en parler, on a bien compris qu'il faut maintenir la pression, mais y aura-t-il plus de monde aujourd'hui que lors des manifestations précédentes, c'est la question.
On observera justement ce qui se passe à Guéret ou ailleurs dans ces villes moyennes, parce que c'est l'une des originalités de ce mouvement, c'est qu'on mobilise beaucoup dans les villes comme Guéret, comme Albi, comme Rouen, où habituellement il n'y a pas forcément beaucoup de monde dans les rues, et là ils arrivent à faire le plein. Donc on verra si ça continue. C'est de la troisième journée de mobilisation. Alors les autorités pensent qu'il y aura moins de monde. Les renseignements territoriaux estiment qu'il y aura à Paris, enfin sur tout le territoire, pardon, entre 900 000 et 1,1 million de personnes. Je rappelle que le 31 janvier dernier, il y avait 1 272 000 personnes dans la rue, donc un peu moins sur le plan national, parce qu'en fait, il y a deux choses à dire. Tout d'abord, les vacances scolaires qui ont démarré pour une zone, donc ça peut jouer. Et puis surtout, il y a la mobilisation du samedi 11, samedi prochain. Donc ça fait peut-être certains vont se réserver pour samedi. Et puis, c'est vrai que ça coûte cher de faire grève et qu'à un moment donné, il y a des profs, par exemple, qui font une grève une semaine sur deux et qui peut-être aussi vont se dire, samedi, moi, je serai dans la rue, donc aujourd'hui, je travaille. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y aura plus ou moins de monde aujourd'hui dans les rues de France?
Il y en aura moins par principe, comme tu dis. Les grèves sont trop proches les manifs sont trop proches les unes des autres. Donc à un moment donné, il y en a une qui va en pâtir par rapport aux autres. Ça, c'est un élément essentiel. La deuxième, juste un constat par rapport à ce qu'on voit. Quand on voit le bordel qu'il y a à l'Assemblée nationale et qu'on voit cette grève à Guéret qui a commencé dans la bonne ambiance, etc., ça fait plaisir de voir quand même que le peuple, en même temps, se comporte correctement. Vous voyez ce qui va se passer aujourd'hui? Je pense que ça va être.
Et encore 11 000 policiers mobilisés.
Oui, mais ça fait partie du jeu. Tu te doutes bien que le préfet de police à Paris, Laurent Nunez, a fait le nécessaire pour que tout se passe dans les meilleures conditions. Mais ce qui va être important encore, on en avait parlé à BFM il y a une quinzaine de jours, par rapport à la première manif, c'est que les services d'ordre des syndicats soient mobilisés. Et là, comme on a tous les syndicats qui sont présents, on peut s'attendre à ce qu'il y ait pas trop d'échauffourées, comme on a pu en voir à d'autres moments. Donc ça, c'est important, encore une fois, que les syndicats prennent conscience de leur rôle, qui est essentiel, en termes de sécurité, pour pouvoir aider la police à faire le travail le mieux possible.
Oui, mais justement, si ça s'est bien passé dans les deux manifs précédentes, c'est parce que le travail avec Laurent Nunez s'est fait en bonne intelligence, et non pas comme avec monsieur Delpech, puis l'Allemand.
Il n'aime pas l'Allemand.
Non, mais c'est des gens qui... Bon, on me dira, c'était les gilets jaunes, mais il n'y avait pas que les gilets jaunes. Hein. Il y a eu les manifs contre la réforme des retraites. On a vu des membres de la CGT se faire bousculer. Là, il y a effectivement les services d'ordre des syndicats qui travaillent avec la préfecture de police de Paris, qui elle-même a la volonté d'être dans le dialogue et d'être dans une entente qui va permettre aux manifestations de se dérouler. Donc ça, c'est un point. Maintenant, je rejoins Olivier, son analyse est à mon sens la bonne, c'est-à-dire que les gens se réservent pour samedi. Samedi, d'abord, il y a les vacances scolaires qui vont commencer et il y a plein de gens surtout qui peuvent plus se permettre. Moi, j'entendais beaucoup d'enquêtes à la radio, des gens disaient, moi, je peux pas, c'est 100 euros.
Évidemment.
Et par contre, j'ai fait la grève la semaine dernière. Je la ferai samedi parce que je travaille pas, mais aujourd'hui je peux pas parce que je peux plus me permettre d'avoir 100 euros ou 120 euros qui sautent. Oui. Donc je pense qu'aujourd'hui il y aura un petit peu moins de monde. Ça ne veut pas dire que le mouvement décélère. Je pense qu'au contraire, samedi il y aura une grande mobilisation parce qu'il y aura beaucoup de salariés qui vont descendre beaucoup plus. Là déjà il y en a pas mal, mais il y en aura beaucoup plus. Et moi j'espère que la manif de samedi va être très fournie.
Va être massive.
Ouais.
Sachant quand même qu'il y aura deux zones en vacances, ça oui. peut jouer quand oui. même aussi. Il y a des gens qui partent en vacances.
Selon
les autorités.
Ah non, pardon, 17, j'ai oublié de compter M. Dupuis, quoi, qui était dans telle ville. Franchement, en étant sérieux, comment on veut avoir un décompte précis alors que, justement, ces manifestations se passent en ruralité, en semi-ruralité, dans des villes oui. moyennes, dans des grandes villes.
On devrait donner des fourchettes.
Il n'y a personne qui va compter les gens dans les petites villes ou les villes moyennes. Donc là aussi, c'est une espèce d'insulte au monde rural et au monde provincial. On s'attache à regarder Paris. Est-ce qu'il y a plus de monde ou moins de monde à Paris? Et puis le reste, à la limite, ça n'existe pas. Sauf que, effectivement, ce mouvement touche toute la France. Et c'est en ça qu'il
est spécifique. D'ailleurs plus et la France que Paris.
Et je vais vous dire, la mobilisation n'a pas une si grande importance que sa durée. Parce que on sait très bien que...
Oui, si c'est 900 000 ou 1 million,
la mobilisation, elle sert le politique dans un sens comme dans l'autre. Quand il y a une décélération, on dit « Oh là là, ça s'arrête !» Alors qu'en fait, on sait très bien que ce mouvement est un mouvement qui est parti pour durer, où certains corps de métier prennent le relais d'autres corps de métier, etc., etc. Et comme tu le disais, on sait aussi que les gens peuvent pas se permettre de s'arrêter de travailler avec la fiche de paye qu'ils ont pendant X jours, mais ils peuvent comme ça tourner les uns les autres. Et ce mouvement est né pour durer. Mais c'est ça qui est important.
J'ai quand même une question qui me taraude dans ce pays. 250 000 gilets jaunes, je crois que c'était la plus grosse mobilisation, c'était pas plus de 250 000. Hein. Il y a eu de la casse, et finalement, le gouvernement a reculé, puisque Emmanuel Macron a retiré la taxe carbone. Là, si tu as 1 million chaque semaine, ça se passe plutôt bien. Heureusement, il n'y a pas de casse. Et finalement, le gouvernement dit « je ne reculerai pas » et a priori, le gouvernement ne va pas reculer. C'est quand même de drôles de messages que tu envoies aussi à la société française. C'est-à-dire que toi, Bruno, tu te félicites qu'il n'y ait pas de casse. Et tant mieux, bien sûr, personne ne souhaite la violence. Mais quand même, la violence des Gilets jaunes a fait reculer le gouvernement. Le mouvement pacifique qui met quand même 1 million de personnes dans la rue chaque semaine, a priori, ne fera pas reculer le gouvernement. Qu'est-ce que tu envoies comme message?
Ben oui, mais en même temps, alors ce que tu dis, c'est très juste, mais en même temps, quand tu entends, même encore une fois, tiens, je reviens à les filles qui, au-delà de la rue, veut qu'il y ait de la violence, en gros, pour qu'on puisse virer cette réforme.
Ils veulent une grève générale.
Oui, mais ils le disent. Ils ont ajouté qu'ils veulent que ce soit le bordel dans la rue. Veut dire les affrontements entre la police et les manifestants. C'est un peu dommage. Ce qui est intéressant, ce que tu disais très justement, Olivier, tout à l'heure, c'est que c'est les petites villes moyennes qui se mobilisent beaucoup. Et ça, c'est un peu nouveau, je dirais.
C'est la classe moyenne.
Voilà, parce que
on
a l'habitude de voir Paris, Bordeaux, Marseille. Paris, hein. Mais là, les petites villes qui se mobilisent.
Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que Emmanuel Macron, il était au moment des Gilets jaunes ou de la première réforme des retraites, parce que je crois qu'il faisait sa réforme aussi des retraites systémiques et paramétriques en 2019, parce que c'était la même chose, hein, on allait tous mourir, la faillite, etc. Donc on était soi-disant.
Ils ont dit hier, hein, la faillite.
Voilà, on était soi-disant dans la même urgence. Bon, il s'est quand même assis sur sa réforme sous la pression de la rue, mais c'est aussi parce qu'il avait, c'était son premier quinquennat. Et à l'issue de ce premier quinquennat, il voulait être réélu. Là, il a plus besoin parce qu'il veut pas être réélu, il peut pas être réélu. Et à mon avis, après lui, le déluge. Il en a strictement rien à faire de celui qui prendra sa suite parce qu'il n'y a pas chez Emmanuel Macron de, il a pas créé un parti, il a pas créé un mouvement, hein, c'est un homme.
C'est souvent comme ça, les politiques.
Et tout ça disparaîtra au moment où lui disparaîtra de la scène politique. Après, ça veut pas dire qu'il reviendra pas dans 5 ans après. C'est pas dit. Mais
je suis pas sûr de ça, hein.
Là, il a rien à, il a non, en tout cas lui qu'il espère revenir. Je pense que les Français lui feront comprendre qu'il reste où il est. Mais là, il a rien à perdre de toute façon. Et ce sera même sa seule réforme. Qu'est-ce qu'il va nous faire d'autre? La réforme sur la fin de vie, des réformes
donc
sociétales.
Donc rien ne fera plier Madame Macron.
Ben sinon il est mort jusqu'à la fin de son quinquennat.
Rien ne le fera plier, mais ce qui est sûr, c'est qu'il va encore plus fracturer la France. Ce qui est sûr, c'est qu'il va encore plus affaiblir la démocratie. Il va encore plus affaiblir la crédibilité que les Français ont dans la parole politique, parce que comme tu le dis, quand on a autant de gens qui s'expriment contre la réforme et qu'ils viennent de la droite, de la gauche, parfois même du centre. Et que malgré ça, le mec te dit « Ah non, mais moi non seulement je m'en fiche, mais en plus je vais me balader un coup à Barcelone, un coup aux Pays-Bas. »
Excuse-moi,
il a été élu pour ça, il s'est dit dans son programme.
Barbara, c'est pire que ça. Le propre du macronisme, c'est de mépriser les corps intermédiaires que sont les syndicats. Je veux dire, nous on le vit tous les jours dans notre catégorie professionnelle. Tout est fait sans consultation, sans aucune consultation des syndicats de notre profession, mais c'est pareil ailleurs. Et donc, ça avance un peu comme un rouleau compresseur en se foutant éperdument des relations sociales, en se foutant de tout ce qui est paritarisme, etc. Non, si, c'est nouveau. C'est nouveau parce que dans les gouvernements précédents, justement,
tu avais
des vraies discussions avec les syndicats. Là, elles n'y sont pas.
Mais les syndicats
ne sont pas. Et donc, je te rejoins en disant que, un peu comme Néron, il crame tout.
Visiblement, les discussions précédentes avec les syndicats, même dans le domaine de la santé, elles n'étaient pas bonnes, puisque l'hôpital a cessé de se dégrader. Elles n'ont pas porté. Et puis j'ai l'impression que les syndicats, à partir du moment où tu leur dis non, que tu fais juste des concessions, de toute façon, c'est du mépris. Soit tu leur donnes
non, mais là,
à ce moment-là, tu es avec eux, soit tu fais des concessions et tu dis on nous méprise.
Les syndicats eux-mêmes ne sont pas représentatifs.
Vous déniez la légitimité à Emmanuel Macron et vous représentez 0, combien de pourcents d'un corps professionnel ou autre.
Jérôme. Nous, on est très syndiqués.
Non, les syndicats professionnels,
moi. Jérôme.
J'ai pas dit ça, j'ai dit combien vous représentez les syndicats globalement par rapport au monde salarial.
2 millions, un peu plus de 2 millions.
Chez les médecins,
non, mais c'est ridicule. T'as 30 et quelques millions de
syndicats. Oui, mais chez les médecins, vous confondez deux choses. Que la CGT et même la CDT soient pas très représentatives des salariés, puisque les gens votent pas, ok. Mais dans les syndicats professionnels, comme les syndicats de médecins, là, il y en a plus quand même.
Oui, mais la
discussion Philippe, qui est artisan, tapissier, manifestation, va-t-il aller manifester, oui ou non? Il est du côté de la Charente-Maritime, va-t-il aller manifester, oui ou non? Y aura-t-il plus de monde ou pas que les précédents cortèges? On vous attend au 32-16.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules, en direct sur RMC, RMC Story. Avant d'aller en Charente-Maritime, retrouver Philippe qui veut discuter avec nous de la mobilisation, de cette journée de mobilisation. On va aller à Toulouse Retrouver Jean-Wilfried Forquès en direct pour BFM TV. Jean-Wilfried, parce que c'est bel et bien l'ampleur hein, qui va être décisive encore aujourd'hui, savoir si cette journée refait le plein ou pas.
Oui, 80 000 personnes la semaine dernière. Olivier, Alain, vous vous en souvenez, 40 000 selon la police. La question, c'est effectivement combien seront-ils aujourd'hui dans les rues de Toulouse. Alors, ce qu'on voit déjà, c'est que derrière, il y a une forte délégation de étudiants, notamment du Mirail. Ils ont bloqué ce matin leur université, blocus pendant au moins 2 heures. Il y a également beaucoup d'employés du privé, notamment de chez Airbus. Nous sommes avec le patron de Force Ouvrière. Ici à Toulouse, bonjour.
Bonjour.
Airbus en force encore une fois.
Hein. Ah oui, Airbus encore en force encore une fois. La mobilisation est de la même nature que le 19 et le 31.
Alors pourquoi cette mobilisation? Parce qu'il ne faut pas de ce projet?
Ben, tout simplement parce qu'on ne veut pas de ce projet. Je crois que le gouvernement aujourd'hui, il faut qu'il arrive à entendre ce que leur disent les citoyens. Aujourd'hui, ce projet est rejeté à plus de 70% et les salariés le font savoir massivement.
Et vous êtes prêt à retourner dans la rue, tous les salariés qui appartiennent à Force Ouvrière, vous êtes prêt à retourner dans la rue samedi prochain?
Ah ben nous, on ne s'arrêtera pas tant que le gouvernement...
Que ça. La mobilisation donc, Alain, Olivier, ici dans les rues de Toulouse, le cortège pour l'instant est à l'arrêt, le départ est imminent, certainement dans quelques minutes ici à Toulouse.
Voilà, Jean-Wilfried Forquès avec un petit souci dans votre micro, Jean-Wilfried. Je vous le dis pour les prochains duplex, voilà, ça crachouille et le son coupe. Merci d'avoir été en direct, Jean-Wilfried Forquès, en direct de Toulouse. Allez, on va en Charente-Maritime. Écoutez, Philippe. Bonjour, Philippe.
Ah, bonjour, Olivier. Bonjour, les grandes gueules et à tous les auditeurs.
Mon cher Philippe, artisan tapissier et oui. Pas pâtissier, vous allez manifester, oui ou non?
Ah oui, je vais manifester. Alors, je vais aller à Rochefort. Là, sitôt que je raccroche, je monte à Rochefort. Mm-hmm. Et s'il ne se passe rien à Rochefort, j'irai cet après-midi à La Rochelle. Oui, absolument.
Pourquoi cette mobilisation, une nouvelle fois?
Parce que c'est, d'abord, ce n'est pas une réforme. On déplace les curseurs, une fois de plus. Donc, oser appeler ça une réforme, franchement, ça commence mal. Voilà, il n'y a aucune imagination. Emploi des seniors, on n'en parle pas. Aménagement de fin de carrière, on n'en parle pas, c'est oublié. Argent versé aux entreprises sans contrepartie. Voilà, on pourrait. Il y a matière, il y a quelque chose à gratter de ce côté-là. CICE, par exemple. Rien, voilà.
Mais vous êtes artisan, Philippe. Vous avez fait vos calculs, Philippe, vous, en tant qu'artisan, vous savez à quel âge vous devez partir?
Moi, je suis un cas très particulier, je suis en retraite au 1er avril.
Ah oui, d'accord. Voilà. Donc, en fait, vous manifestez plus pour les autres.
65 ans.
J'ai jamais voté en pensant à ma tronche.
Ça vous honore.
J'essaye de penser au bien commun. Et donc là,
Philippe,
je vais manifester pour mes consoeurs, mes confrères, les travailleurs, les gens qui se font du mal en travaillant. Le tapissier, on pourrait dire, tiens, c'est pas un métier pénible. Eh ben, si, c'est un métier pénible. On travaille avec nos dix doigts, on attrape des tendinites. Et quand on est indépendant, un salarié, il peut s'arrêter, mais l'indépendant, ben, il retourne derrière l'établi avec sa tendinite, il serre les dents et il continue à bosser. Et donc là, je voulais continuer à travailler. Non, c'est mon corps qui a dit non.
Vous avez 65 ans.
C'est important ce qu'il nous dit, parce que ça, on le vit tous les jours dans nos cabinets de médecins, les artisans, les indépendants, etc. vous supplient de ne pas les arrêter régulièrement. Oui, et ça se cumule pendant toute une vie. Et ça veut dire que quand tu arrives à 62 ans et que tu as eu ces métiers où tu n'as jamais pu t'arrêter, ben, t'es beaucoup plus usé que quelqu'un dont le métier lui a permis de s'arrêter plusieurs fois, d'avoir des arrêts de travail, des temps de repos, etc.
Quel métier, par exemple?
Non, mais les médecins, nous,
Philippe, 70 ans,
ils sont vite à 75 ans.
Philippe, parce que vous dites là aujourd'hui, votre corps est fatigué, vous prenez votre retraite, vous arrêtez le 1er avril, c'est pas une blague, mais vous vous arrêtez avec une retraite de combien, et est-ce que tout au long de votre vie.
J'ai eu un parcours un peu. Un parcours de vie avec des hauts, des bas, et heureusement, on va dire, durant les. Depuis une dizaine d'années, j'ai trouvé une façon de procéder qui fait que j'ai j'ai eu un bon bénéfice, j'ai bien cotisé et oui. Donc ça m'a j'ai eu un au départ j'étais salarié comme beaucoup d'indépendants et tout ça cumulé, ça fait que pour un artisan je sors avec une retraite correcte de 1850 € brut.
Et vous êtes des complémentaires. En ayant des complémentaires.
Oui, tout compris. Hein.
Et vous avez pu être propriétaire de votre logement.
Oui.
Capitaliser un peu à côté aussi.
Oui. J'ai des petits à côté supplémentaires. J'ai un petit peu d'économie. J'ai un petit peu d'immobilier. Enfin,
combien vous avez fait d'annuité?
Un peu plus que
vous bossez depuis quel âge, Philippe?
J'ai commencé tard. J'ai commencé à 23 ans.
À 23 ans.
Ouais.
D'accord.
Donc, j'ai été à 67. Philippe, vous allez défiler pour les jeunes générations. Merci Philippe d'avoir été avec nous. Je vous remercie.
Olivier, si je voudrais rajouter quelque chose.
Je vous en prie.
Parce que ça me reste en travers. Je fais le parallèle. Vous allez comprendre de qui je parle quand je dis ils. Les gens aux manettes ont vendu nos autoroutes qu'on avait payées. Ah. Ils les ont vendues à vil prix à leurs copains. C'est Jospin qui a commencé. Tous les autres derrière ont embrayé. Ils ont vendu ça 10 milliards alors que ça rapporte 14 milliards par an. Cette année, ça fait 30 milliards de dividendes. Le maire s'est exprimé. Sa réaction, c'est unique. Normalement, on devrait pouvoir casser le contrat. Il ne va pas casser le contrat. Bon, là, il y a de l'argent à prendre.
C'est en 2026.
Mais le problème, c'est que les contrats sont bien ficelés. Ouais.
Juste un point, Philippe. Le contrat, il a été bien ficelé par Mme Borne. Qui le négociait quand elle était au cabinet de Madame Royal et ensuite elle est allée pantoufler un an chez un des propriétaires d'autoroutes. Donc voilà.
En même temps, est-ce qu'on est capable d'entretenir les autoroutes quand l'État récupère les choses généralement?
Non, mais tu pouvais très bien les vendre, mais avec d'autres conditions. Effectivement, c'est bien sûr. Pas l'État de gérer les autoroutes. Après, l'État qui n'arrive pas à gérer les gens. Mais tu pouvais très bien avoir de meilleurs contrats et récupérer une partie de cette manutention.
Sur la question des autoroutes, parce qu'elle revient pas mal en ce moment. Effectivement, les contrats, les concessions seront à renégocier en 2026. Mais admettons par hypothèse que l'État les récupère. Je crois que c'est un petit billet de 40 ou 50 milliards. C'est la fourchette qui est donnée. Ne croyez pas que derrière, les autoroutes seront gratuites et n'augmenteront pas dans l'année non plus.
Quand l'État était directement, ça augmentait chaque année.
Bien sûr, souviens-toi que Ségolène Royal avait même gelé pendant un temps le tarif.
Et ça nous coûte très cher maintenant parce qu'on paye les pénalités.
Non, mais il paraît que de toute façon, c'est innégociable que les contrats ont été faits uniquement à l'avantage des sociétés concessionnaires. Donc de toute façon, l'État est le pire des négociateurs de contrats.
Et le pire des gestionnaires. Et parce que je pense qu'ils sont meilleurs chez Vinci que dans les cabinets ministériels de l'époque.
Oui. Ouais, dès qu'ils vont dans le privé,
ça leur permet de repartir.
Les énarques comme Madame Borne, etc. Dès qu'ils vont dans le privé, ça y est, ils commencent à avoir les écoutilles.
Je crois pas ça parce que je me souviens un jour avoir discuté de ça avec un grand patron. Il dit non, on les laisse pas aux manettes, on les laisse au carnet d'adresse. Regarde les équipes, regarde les équipes qui ont tous fait des hautes écoles de commerce, etc. Et qui savent négocier des contrats. Et on dit à l'ancien ministre ou comme ça, il faudrait qu'on appelle un tel. Oh, mais bougez pas, c'est un ami. On peut déjeuner. Ah, mais vous inquiétez pas, évidemment. Je vous arrange ça. On embauche les anciens ministres. Mais c'est pas eux qui sont manettes.
Et on les embauche aussi dans les cabinets d'avocats pour leur carnet d'adresse.
Et uniquement pour ça. Et les déjeuners.
C'est la fête
aux ministres. Ils sont très forts. Thierry, bonjour. Bonjour Thierry.
Bonjour.
Merci à Philippe d'avoir été avec nous. Thierry, du côté de la Loire-Atlantique. Alors, est-ce que vous pensez qu'il y aura plus ou moins de monde? Est-ce que vous allez défiler? Dites-nous tout.
Alors, non, j'irai jamais défiler. Moi j'ai vécu énormément à l'étranger. Je trouve que les Français sont des gens qui se plaignent la bouche ouverte. Il faudrait qu'ils se rendent compte de la chance qu'on a des nés Français.
Mais c'est ce qu'ils veulent préserver justement, c'est ce qu'ils disent.
Bangladesh, on est plus heureux.
Franchement, ce genre de réflexion, c'est complètement nul. Donc si je peux pas m'exprimer, merci. Donc, ce que je voulais dire, c'est que oui, on est obligé de faire des réformes. La vie évolue. Quand on parle de la pénibilité, moi, ça me fait rire. Quand je vois que c'est des professeurs qui font la plupart des grèves, aujourd'hui, je suis obligé de garder mon fils parce qu'ils sont en grève. Je pense pas que l'école, c'est pénibilité. Moi, je me tape plus de 15 heures par jour, 7 jours sur 7. Voilà. Et je fais mon travail.
C'est quand vous voulez qu'on échange avec une classe, monsieur. Parce que je pense que moi, je n'irai pas vous dire que restaurateur, c'est pas un métier pénible, parce que je respecte votre métier. Mais moi, je vous conseille de venir voir ce que c'est enseigner dans certaines conditions. Et là, on reparlera de la pénibilité. Et vous verrez comment vous ressortirez au bout d'un mois de cours, hein, avec des gamins, 30 élèves à gérer. Mais vous voyez ce côté de mépris pour certains métiers. Moi, nous, on n'a pas de mépris pour votre métier de restaurateur.
J'ai fait énormément de métiers dans ma vie. Okay. J'ai eu toujours des métiers où on travaillait énormément. Voilà.
Prof, c'est un métier de feignasse, quoi. Merci. On sera content de le savoir.
Vous avez travaillé où à l'étranger?
C'est ce que vous dites. C'est pas un métier pénible.
Je vais préciser sa pensée. Allez-y, Thierry.
Je n'ai jamais dit que c'était un métier de feignasse, donc ça serait bien que je ne déformais pas mes preuves, mes mots. Okay. J'ai juste dit qu'il y avait quand même moins de pénibilité en tant que professeur que d'autres métiers, okay, que gens qui sont maçons et tout ça. Donc voilà, il faut à un moment faire un juste milieu.
Mais ça a toujours été le problème, Thierry. Okay. Non, mais c'est vrai qu'il y a toujours un paradoxe.
C'est l'exemple des enseignants que vous prenez, comme par hasard.
Sans agressivité.
Je suis désolé, c'est ça les images qu'on montre à nos enfants.
Non, mais sans agressivité, c'est vrai qu'il y a un paradoxe. C'est-à-dire que ceux qui peuvent se mobiliser ne sont pas forcément toujours ceux qui sont le plus touchés par la pénibilité, etc. Quand je vois des agents de la RATP qui se mobilisent, qui partent quand même beaucoup plus tôt que leurs collègues qui travaillent, qui font le même métier à Toulouse, Bordeaux, Marseille, etc. Bon, pareil, la SNCF. Voilà, c'est un peu le paradoxe.
C'est le public qui se maintient.
Il y a quand même encore des légistes spéciaux qui sont maintenus jusqu'à la fin du grand-père, jusqu'au petit-fils. Donc c'est vrai que c'est paradoxe, mais ça a toujours été
Thierry,
comme ça.
On va discuter avec Laurent aussi du côté de la Corse. Bonjour, Laurent.
Bonjour à tous.
Fidèle DGG, Laurent. Est-ce que vous irez manifester aujourd'hui ou pas? Est-ce qu'il y aura plus ou moins de monde? Dites-nous.
Alors, moi, dans mon village, on est 8, donc je suis le seul actif en plus, donc on n'ira pas manifester. Mais on est 8 l'hiver, hein, l'été, c'est autre chose. Mais non, je n'irai pas manifester, mais sincèrement, c'est la première fois que je soutiens un mouvement comme ça. Alors, ça me concerne personnellement et ceux de ma génération, 55 ans. On se prépare à sortir d'ici 7, 8 ans, peu importe. Moi, j'ai commencé à travailler vers l'âge de 22, 23 ans. Et on prépare tout ça parce qu'on a envie de faire autre chose. Et là, on nous dit, ben voilà, ça va être...
On change les règles du jeu, ouais.
Et pendant le match, moi qui ai fait du sport toute ma vie, notamment du rugby, si on me dit à la 79e, il faut que tu joues 10 minutes de plus, je ne suis pas d'accord, quoi. Alors, ouais. J'ai pas eu un métier éprouvant, je suis partisan, je suis pas maçon, mais j'ai quand même fait 30, 40 000 bornes par an pendant 20 ans. J'ai voyagé énormément. Et ça, c'est fatigant aussi. Et puis, voilà, je prépare autre chose. Et là,
c'est très injuste, Laurent, parce que vous, on change la règle du jeu. Et pour d'autres, on dit, non, ça sera la clause du grand-père. C'est une injustice au sein même de cette réforme des retraites. Pourquoi changer la règle de jeu de ceux qui sont finalement pas très loin de la retraite et qui commençaient déjà, d'ailleurs, à s'y préparer? Et on leur dit, non, ça sera quelques trimestres, voire 2 ans de plus. Oui, il y a une forme d'injustice, ouais.
Complètement. Surtout que moi, j'avais préparé une après-retraite toujours active. Alors, plus dans l'associatif, plus dans... Je voulais m'investir ailleurs.
Tu perds, de fait.
Voilà. Donc, on va... Je trouve ça un petit peu plus qu'injuste. Et surtout quand on parle de rassembler les gens, de ne pas fracturer. Et là, il n'y a rien de pire. Quand on te dit, toi, c'est dans le privé, ben voilà, à partir de maintenant, c'est 2 ans de plus et tu n'as pas le choix. Et celui qui est dans le public, ben écoute, là, c'est celui qui va rentrer juste après toi. Tu vas travailler un petit peu plus, mais toi, tu viens d'entrer depuis 2 ans, c'est pas grave, tu vas sortir quand même à 55, 58, enfin, en fonction du régime spécial. Mais voilà, je trouve ça inadmissible et je pense que le gouvernement devrait revoir sa copie parce que ça va générer de la frustration.
Merci Laurent. Vous nous appelez d'où en Corse?
Campomor, c'est un côté de propriété.
En même temps que vous nous parliez, je suis allé regarder parce que je voulais être sûr que c'était votre village.
Il voudrait venir cet été.
Magnifique.
Vous louez votre maison.
Merci Laurent.
Alors Alain, je ne la loue pas, mais si vous passez le 18 août, nous sommes nés le même jour, donc on va ensemble.
On invite vous
sympa.
Savez quoi, je viens et puis on invite Carole Bouquet, Robert Redford, ils sont nés le 18 août aussi.
Avec grand plaisir.
Le problème c'est trop tard.
Salut Laurent, bonne journée.
Si on veut prendre tous les cas réellement, on ouvre la boîte de Pandore, c'est-à-dire que chacun va vouloir avoir son truc.
Alors,
les retraites, c'est ça le problème. On parlait là, à un moment donné, je lisais ce matin, les jobs d'été. Est-ce qu'il faut que les jobs d'été rentrent en considération dans la retraite?
Oui,
je veux dire, à un moment donné, chacun va vouloir sa retraite, en gros, quoi. Et on s'en sort.
Donc peut-être que la réforme,
plus ou moins de monde,
est peut-être plus maligne que celle-là.
Plus ou moins de monde, on va regarder la consultation pour conclure notre discussion. Plus ou moins de monde, qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? en augmentation, 52%. Vous pensez qu'il y aura plus de monde à 52%, mais
ouais,
c'est assez partagé plus, ouais. Quand même. On en reparlera demain de toutes les manières. Allez, dans un instant, les indiscrets du service politique d'RMC et le quiz des GG.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules. RMC.
9h midi.
Les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story aujourd'hui. Barbara Lefebvre, enseignante en reconversion. Bruno Pomard, maire de Belfloux dans l'Aude et ancien policier du RAID. Et nous sommes avec le docteur Jérôme Marty. Allez, il est temps d'accueillir Hélène Terzian.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Parce que c'est Hélène qui nous accompagne ce matin pour les indiscrets du service politique d'RMC. Bonjour,
bonjour
Hélène.
À tous.
Sandrine Rousseau était l'invitée ce matin d'Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV à 8h30. L'occasion d'évoquer la fin de l'enquête interne sur Julien Bayou. Au sein d'Europe Écologie Les Verts, le député compte maintenant faire son retour à l'Assemblée.
Oui, c'est la fin de 7 mois kafkaïens, voilà ce que nous dit son entourage. Rappelez-vous, on est en septembre, on est en pleine bataille interne pour la présidence du parti. Quand Sandrine Rousseau évoque sur un plateau télé des violences psychologiques de la part de son collègue Julien Bayou à l'égard de son ex-compagne, une cellule interne avait alors été saisie, sauf que depuis... rien. L'ex-compagne n'a jamais voulu témoigner. Julien Bayou a demandé, selon nos informations, à 10 reprises d'être auditionné, refusé. L'enquête est donc fermée. C'est la fin d'une affaire qui n'en était pas une, réagit Cache, une écologiste, pour une députée un peu plus mesurée. Ce n'est juste ni pour les femmes qui ont parlé, ni pour Julien Bayou.
Donc du coup, maintenant, Julien Bayou veut s'investir à fond, on imagine, dans son mandat de député.
Oui, il a des choses à dire, il a des idées à porter, nous disent ses proches. Il compte donc monter au créneau sur la réforme des retraites et pourquoi pas s'exprimer à nouveau médiatiquement, pas pour parler de lui, pas pour parler de l'affaire, mais pour parler de fond, nous dit-on. Mine de rien, il n'y en a pas tant que ça des personnalités écolo, lâche infidèle. Et RMC peut vous dire justement que Julien Bayou compte déposer une proposition de loi pour interdire les jets. Un texte qui pourrait figurer dans la niche parlementaire de son parti le 6 avril, jour exclusivement consacré au texte déposé par Europe Écologie.
Rien d'autre. Alors, on imagine ça peut faire du bruit. Et peut-être aussi, c'est pour faire oublier cette affaire qui a, on imagine, laissé des traces au sein du parti.
Bien sûr, ça a créé un précédent. Hein, c'est ce qu'on nous dit dans l'état-major du parti. Certains reprochent la méthode utilisée par Sandrine Rousseau, qui a fait ses déclarations, vous le savez, sur un plateau télé. D'autres pointent surtout l'aveu d'échec de cette cellule interne consacrée aux violences sexistes et sexuelles, d'où le lancement d'un audit qui va bientôt être lancé courant février. Nous dit-on, on veut améliorer cette cellule, créer toutes les conditions pour que les victimes soient entendues, pour mieux accueillir la parole des femmes, explique une membre du parti écolo, insatisfaite comme dans l'entourage de Sandrine Rousseau d'ailleurs, que l'enquête ait été close sans avoir pu se saisir dans cette affaire d'autres témoignages de femmes, des militantes, vous savez, qui s'étaient notamment exprimées par voie de presse sur le comportement déplacé de l'ancien patron du parti.
C'est hallucinant, ça, ces affaires-là de commission. Moi, ça me sort de la tête, ces commissions en interne.
Commission interne.
Ouais, on se croirait en URSS dans les années 80, là, des comités qui se permettent de juger leur propre. Il y a la justice dans ce pays. Mais merde, non, mais ça, on croit rêver. Quand j'entends ça, ça me rend fou, quoi.
Le policier,
c'est un fiasco, c'est un fiasco. En particulier, j'espère que Sandrine Rousseau va commencer à revoir sa communication en règle générale, parce que.
Elle ne regrette rien, Sandrine Rousseau.
Oui, non, ça, je sais.
Par Apolline,
mais sur tant de sujets, elle met des sujets sur la table qui sont des sujets importants, que ce soit la question des violences faites aux femmes, que ce soit la question de la consommation de viande.
Mais elle est très mal.
C'est des sujets qui sont importants, qui habitent d'ailleurs l'opinion et qui font débat dans la société. Mais elle les amène sous un angle qui est tellement extrémiste et surtout très polarisé, avec une forme de d'hystérisation de la chose. Là, en l'occurrence, peut-être qu'il y a des femmes au sein d'Europe Écologie Verte, pas avec Monsieur Bayou, mais avec d'autres représentants, avec d'autres acteurs du parti qui sont peut-être victimes de harcèlement, etc., mais qui se disent bon, on va plus rien dire, parce que, et surtout déjà, on n'en parle pas à Sandrine, parce que sinon la terre entière va être au courant.
Tu saisis la justice.
Il y a un vrai problème, parce que je ne sais pas si à un moment donné Madame Rousseau va comprendre qu'elle porte préjudice à la cause écologique. Mais moi, j'entends des gens même qui sont écolos, qui sont pas Europe Écologie Les Verts, mais qui sont écolos, qui ont une grande conscience écologique, et qui disent c'est pas possible, cette femme-là, elle nous sape l'herbe sous le pied en permanence.
Il y a quand même quelque chose qui est étonnant dans les coulisses là que nous raconte Hélène, c'est que Julien Bayou a demandé 10 fois à être entendu par oui. cette même commission interne. Oui. Mais et à chaque fois, ils ont refusé. Donc, si tu veux, ça ne va que d'un.
C'est un fiasco.
Que d'un oui. côté.
Parce qu'ils estiment qu'il fallait entendre d'abord la victime.
Oui, mais
c'est
une fois que tu l'as entendu.
Elle n'a pas été entendue. La victime, elle a parlé qu'à Sandrine Rousseau.
C'est un fiasco, tout ça.
C'est un total fiasco. C'est une évidence, quoi. D'abord, tu donnes les droits à la défense, et ils le font pas. C'est des espèces de tribunaux d'exception.
Bien sûr.
Ça n'a pas lieu d'être dans une démocratie, quoi. Et surtout, ça n'a pas lieu d'être dans un parti qui aspire à être à diriger le pays, quoi.
Enfin, Europe Écologie Les Verts, c'est un parti très particulier. Ils se disent végétariens, mais ils se mangent entre eux. Ils se mangent entre eux tout le temps. Parce que c'est pas la première affaire.
Il y a
l'affaire
Coquerel aussi.
Je rappellerai que Sandrine Rousseau, elle avait été agressée par qui? Par un écologiste plaqué contre le mur par Denis Baupin. Je vous rappelle qu'il y a eu aussi des histoires autour de Dominique Voynet. Je vous rappelle qu'il y a eu des histoires autour de Jean-Vincent Placé. Et à chaque fois, c'est entre eux. Mais je veux dire, on est quasiment dans une secte. Oui. Ils essaient de trouver des règles internes qui échappent à la justice, qui sont quand même très opaques, finalement qui aboutissent par un fiasco parce que personne n'est content. Ni d'ailleurs, je pense, ces femmes victimes qui se disent victimes de Bayou, ni Bayou lui-même, puisque lui, sa carrière.
Ça dessert les causes.
La carrière de Bayou, elle a quand même un peu freiné ses ambitions personnelles. Et puis, c'est aussi l'arrosé. Bayou était aussi comme les autres, le premier à demander la démission d'Armanin, de machin. Présomption d'innocence, on s'en fout. Ce qui compte, c'est la parole des femmes. Mais moi, ça lui est tombé dans la tête.
Et ça dessert les causes.
Non, mais surtout que
disait Barbara.
Quand on est chez LR, on est RN, on est socialiste, bon. Mais quand vous êtes Europe Écologie Les Verts, que vous défendez quelque chose d'aussi important que les enjeux climatiques, qui sont des enjeux, là, pour le coup, plus urgents que la réforme des retraites, à mon avis. Non, mais ces gens-là n'incarnent pas prise de conscience nécessaire.
Ils ont le problème le plus important à gérer, et ils se débrouillent par le faire, par le petit bout de la.
Merci, Hélène Terzian. Les coulisses d'Europe Écologie Les Verts. On y va pour le quiz des GG.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Quiz des grandes gueules avec l'ami Louis Gerbier. Bonjour.
Salut Alain, salut les GG. Alors comme ça tout de suite au débeauté, quel est le joueur de foot le plus riche du monde?
Ronaldo.
Neymar.
Messi.
Non. Non, c'est un Français qui avait fait des très bons placements.
Ah, Mathieu Flamini?
Oui, c'est
ouais,
ça.
Ouais, non.
Cristiano Ronaldo.
Ça a un peu retombé.
Cristiano Ronaldo.
Et non, évidemment, il y avait un piège puisque c'est Faïk Bolkia. Alors, qui est-il? Il est âgé de 24 ans et joue au poste d'attaquant dans le grand club du Chonburi FC, une équipe du championnat thaïlandais. Alors, pourquoi c'est le plus riche du monde? Bah, tout simplement parce que c'est le fils, il est de la famille du prince de Brunei.
Voilà.
Et donc, sa fortune est.
C'est pas le football qui l'a enrichi.
Est-ce qu'il sait jouer au foot, déjà?
Alors, il a eu une petite carrière chez les jeunes à Chelsea, qui ne l'a pas gardé. Donc, il est allé à Stoke City, qui ne l'a pas gardé.
Oui, parce que
il est allé à Leicester, qui ne l'a pas gardé. Donc, maintenant, il est en Thaïlande. Et c'est un passionné, vraiment. Il aime le foot. Il joue quand même pas. Il a un niveau, je veux dire. Enfin, nous, on ne l'a pas. Hein. Il est quand même bon. Mais voilà.
Tu m'as vu jouer?
Non, c'est vrai. Bon, c'est vrai.
J'ai aucune preuve. Il vaut mieux pas, d'ailleurs.
Donc, Ronaldo, on estime sa fortune à peu près à 1 milliard d'euros.
Ah ouais.
Surtout que maintenant, il est en Arabie Saoudite.
Il a repris 200 millions en deux ans, et ça aide.
Ouais. Là, ça va.
Permet de payer 2-3
millions. L'argent n'a pas d'odeur, donc c'est pas très grave.
C'est important.
Pour Faïk, c'est 18 milliards. Alors, 18 fortune, fois la fortune de Cristiano Ronaldo. Pas mal.
Petit état, le sultanat
pour
de Brunei.
Le dire. Capitale.
Brunei.
Non.
Très compliqué. Bandar Seri Bengawan. Celle-là, à chaque fois, elle me foutait en l'air. Changement de sujet. Quelle distinction Bobby, 30 ans, qui vit au Portugal, a-t-il reçu cette semaine?
Ah oui, le chien le plus vieux du monde.
Ah, je savais. Je savais.
Quel âge?
30 ans. Et c'est une sorte de croisé mastif.
C'est un rat.
C'est lui là qu'on voit sur RMC Story. Ouais.
Oui.
Et surtout,
c'est Bobby sur
RMC. Et surtout, c'est un chien qui aurait pu disparaître parce qu'en fait, il était né, c'était une portée d'une chienne de chasse.
Ouais.
Et il en avait trop, il disait, il voulait les tuer. Voilà, la classe.
C'est un survivant,
On va faire un film.
Et donc, lui, il a survécu, et voilà.
Il a survécu en se planquant. Il s'est planqué.
Il a échappé à la mort. Il a échappé à la noyade.
On pourrait faire un film de ça.
Et il vit au Portugal.
C'est quoi comme race?
Rafaré. Alors, c'est un croisé mastif. Mais en portugais, c'est Rafero de Alentejo.
Oui, mais c'est
30 ans. Alain Peugeot, c'est très connu, très connu.
Pas jusqu'à 30 ans.
Bah justement, c'est plus vieux du monde.
Encore, non, non, c'est environ 12-14 ans.
Non, non, il a son certificat de naissance, oui, donc on le sait vraiment.
Alors attends, je t'explique un petit peu, c'est parce que il y a 15 jours,
Oui. Ouais, vous êtes jaloux, c'est tout.
Je fais comme Anaïs. Les GG.
Oui.
Oui, écoutez un peu.
Ah, tu l'as bien fait.
Ouais, t'as vu, hein. Il y a 15 jours, c'est Spike, un petit chihuahua de 23 ans, à qui on a donné Non.
Une dernière injection.
Le trophée de chien le plus vieux du monde. Et,
c'est intéressant.
Et cette famille s'est manifestée en disant mais attendez.
C'est le nôtre.
Nous, on a bien plus vieux ici.
Et,
à la maison
et ta chienne, Barbara, à quel âge?
Non, elle a 5 ans.
Ah, bah, elle a des sports encore.
Bah oui, elle va vivre longtemps, surtout qu'elle ne mange pas des croquettes de l'industrie.
Ah, ça y est, c'est parti. Elle est bien nourrie. Elle est bien nourrie.
Et alors donc, 30 ans, ça fait plus de 210 ans en année de chien et 0,5 ans en Michel Drucker.
Ah bah, je
suis par 7, non?
C'est ça.
Je suis par 7.
Bah, c'est bidon.
Il a l'air vaillant.
Il n'y croit pas, là.
Ah non, je ne crois pas une seule.
Bobby, tu penses qu'elle nous a fait une jale calmant, il a truqué ça.
Bien sûr, pour avoir la médaille.
Allez, on enchaîne. Juliette Lamour, originaire de Sault-Sainte-Marie, en Ontario, est une jeune Canadienne, donc, de 18 ans, dont la vie a changé brutalement il y a quelques jours. Savez-vous pourquoi?
Elle a gagné le loto.
Oui. Et la particularité, c'est quoi? C'est qu'elle avait 18 ans, c'était la toute première fois.
Mais elle n'a pas gagné plusieurs fois, non, c'est ça?
Ah non, c'est, ça, c'est son premier coup.
Vous avez vu la combien?
Son premier coup à 18 ans, en même temps, c'est l'âge.
Qui, ouais, exactement.
Bravo.
Oh,
bravo.
La classe.
Et vous avez vu la culture, les gars?
J'appelle Sandrine.
C'est moi qui ai trouvé.
48 millions de dollars, donc 32 millions d'euros.
Ouais, quand même.
Elle raconte, en fait, tout simplement que c'est son grand-père qui lui a dit « T'as 18 ans, t'es majeur, c'est la première fois que tu peux y aller, vas-y, va jouer, va juste pour l'histoire. » quoi. Et elle a même dû appeler son père à l'intérieur du bureau de tabac, je sais pas où est-ce qu'on achète des tickets là-bas, pour lui demander comment ça marche, qu'est-ce que je dois faire. Elle l'a fait, 32 millions, paf.
Bravo, bien joué.
Paf.
Et le père réclame la somme maintenant parce qu'il a dit que
c'est la chance du débutant. Parce que...
On continue. Louis.
Parce que toi, ça fait bien 20 ans que tu as gagné un euro.
Non, elle fait bouffer son chien, Barbara.
Pour finir, on va finir. Quel artiste légendaire français recevra un trophée d'honneur aux Victoires de la musique le jour de ses
50 ans? Serge Lama.
Bien joué. Serge Lama, bravo Bruno.
T'as pour une fausse chanson là sur le coup, ça fait deux fois trop.
J'ai mis 7 chansons pour Barbara.
Ouais, parce que
là,
je suis malade.
Mais
il a quel âge?
Il est
vraiment malade.
Et ben, il aura 80 ans le jour des.
Il va pas
malheureusement,
parce qu'il dit que physiquement il ne peut plus.
Il est sur une chaise,
plus montré.
Il est sur une chaise, donc
il marche plus en fait. Ouais.
Et d'ailleurs, donc cette chanson, c'était pour toi parce qu'aujourd'hui t'es
un peu
souffrante.
Malade. Oui.
Mais est-ce que vous connaissez la chanson préférée de toutes les chansons de Serge Lama de Barbara?
D'aventure en aventure?
Non.
Ou sur les animaux?
Non, un truc avec un nom de clébard dedans. Oui.
dans la chanson, on chante pour faire gay ce refrain pas très distingué.
Ah oui, le gibier manque et les femmes sont rares.
Exactement.
Chante tant que
le gibier manque et les femmes sont rares.
Alors écoute.
Après le vin blanc, le foie gras, la poule faisane. Après le café, le pousse café, le pousse tisane. Lorsque les servantes s'assoient sur nos ventres, on chante pour faire gai ce refrain pas très distingué. Le gibier manque et les femmes sont graves.
Ah, c'est pas du tout.
Les paroles.
Écoute.
Sont les plus jeunes qui vont de suite sous la table.
Ça, tu fais écouter ça sans une ressource.
Ah oui, c'est bon.
T'as un procès.
Il reste des fanfares dans la voiture en écoutant. Ouais.
Les trois quarts des paroles ne sont plus possibles aujourd'hui.
Oui, c'est ça.
Merci Louis. À vous de choisir. Dans un instant, deux sujets de discussion. Voilà ce qu'on vous proposait sur notre site internet. La sécurité routière, les hommes cibles de la nouvelle campagne de prévention, ou les jeunes moins sportifs que les plus de 65 ans. Selon une étude, vous voulez que l'on parle des jeunes qui aujourd'hui sont moins sportifs que les plus de 65 ans. Écoutez bien, lors d'une expérimentation qui a été faite, 3 enfants sur 5 ne savaient pas enchaîner 4 sauts à cloche-pied.
Ça fait peur, ça.
Allez, on en discute sobre, hein. Avec
en même temps,
vous.
Il pèse déjà 70 kilos à 12 ans.
Au 32-16.
Les glandus.
RMC, jusqu'à midi.
Les grandes gueules.